En fait, il est plus facile d'offrir au Seigneur les joies quotidiennes, mais en ce qui concerne les souffrances, j'ai et nous avons une certaine capacité, une certaine habitude d'encaisser. Par exemple, les petites douleurs, vexations, chagrins, peines au quotidien. Cela semble assez aisé finalement de se blinder et puis d'encaisser. Mais les grandes douleurs, je suis ou d'autres avec moi, nous sommes finalement blindés, d'où une certaine indifférence devant les émotions qu'on en éprouve, on prend sur soi. Alors comment qualifier cette conduite? Est-ce que c'est une indifférence devant des grands chocs? Pourtant, je prends part à la souffrance, mais je finis par apprendre à n'y attacher qu'une importance relative. Est-ce que c'est du détachement, de l'égoïsme, une peur d'être à nouveau blessé, ou un besoin de voir plus loin, ou un besoin de voir plus loin qu'une douleur passagère, ou est-ce encore un repli sur soi? Est-ce un laxisme? Est-ce une fatalité? Je pense que nous avons une armure, une carapace, et il n'y a sûrement pas insensibilité, mais une certaine insensibilisation progressive à une certaine douleur morale ou physique. Ou alors, est-ce encore un dégoût ou un mépris des petits aléas chez nos proches qui se plaignent pour des choses sans importance et superficielles? J'espère que vous avez été la question. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Effectivement, c'est ce que je vous ai dit hier, dans le stade numéro 2, il y a ce problème qu'à partir du moment où on commence à reconnaître les émotions, et même à les reconnaître, eh bien, il risque d'y avoir, au bout d'un certain temps, assez vite, au bout de 3, 7, 8 fois, une attitude que j'ai appelée une attitude perfectionniste. Vous vous rappelez, hier, on parlait de ça? Et cette attitude perfectionniste, elle consiste à dire, bon, ben ça va, maintenant j'ai l'habitude, il faut que j'ai compris, il faut que je dépasse ça, alors je fais comme ça, vous voyez, je dépasse ça. Je dépasse ça, je me situe au-dessus. Et je me mets dans l'indigo. C'est New Age, ça. Je dépasse. Et je rentre dans une attitude finalement de soumission. En fait, c'est une attitude islamique, si vous voulez. Je dépasse ça. Vous voyez, c'est à ce moment-là, quel est le mouvement à partir de l'émotion que je fais, mon mouvement d'amour, c'est d'aller dans le sens de l'émotion. Au lieu d'obéir à l'émotion, je vais au-dessus de l'émotion, mais je vais quand même dans le sens de l'émotion en la transcendant, en la... On appelle ça, comment est-ce que Freud appelle ça? En la sublimant. En la sublimant. Et vous voyez bien que c'est le sens yogique ascendant. Je vais dans le sens des énergies psychiques. Et puis, je vis, j'assume, je me blinde. Et finalement, à bien regarder, c'est ma tête qui finit par... Je commence à en avoir finalement plein la tête, même si c'est des pensées positives. Mais en tout cas, mon cœur, lui, est de plus en plus inhibé. Donc je vous ai expliqué justement que l'attitude perfectionniste, c'est un grand danger. Parce que justement, à partir des émotions, je vais avoir une gestion qui est semblable à celle des gestions que j'ai au niveau des pensées. C'est ce que je vous ai expliqué. Il faut toujours donc accepter, c'est un petit peu une espèce de trait que je vous ai dit, de vaincre cette attitude qui consiste à progressivement se dire qu'il n'est plus nécessaire de descendre à la racine de ce qui m'habite, à cette source, et donc de saisir, stade 3, cette grâce. Quelle est donc cette grâce qui est cachée en dessous, à la racine de cette émotion? L'émotion, c'est au fond la fumée qui monte, et la grâce, c'est la braise ardente qui couvre. Il n'y a rien à voir entre la braise ardente et la fumée. C'est deux natures différentes. Mais grâce à la fumée, je la laisse venir, et du coup, laissant venir, vous savez, vous restez pas une demi-heure. Concrètement, vous avez une montée d'angoisse, par exemple. Vous restez pas pendant trois quarts d'heure, trois heures, je laisse monter l'angoisse. Oh, angoisse, oh, angoisse. C'est pas ça. Vous priez, par exemple, vous êtes devant le Saint-Sacrement, vous êtes dans l'oraison, une montée d'angoisse. Ah bon, très bien. Alors la montée d'angoisse, vous la laissez aller jusqu'au bout, pendant 15 secondes, une minute peut-être, si vous voulez. Mais enfin, elle a pris sa place. Elle ne surabonde plus, je veux dire. Elle pourrait surabonder si vous y consentez. Mais vous, elle a pris sa place. Et du coup, elle est localisée en vous. Vous voyez où elle est, cette émotion. Et vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est ? Seigneur, d'où ça vient ? Et à partir du moment, ce moment-là, ayant l'émotion, vous pouvez rentrer dans les six stades, dans les six étapes que je vous ai dit sur le stade 3. Essayez de voir, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, bien, c'est plus une terreur. Vous voyez, c'est subtil la différence entre la terreur refoulée, l'angoisse et la peur, par exemple. C'est pas les mêmes choses. Enfin, petit à petit, il faut quand même arriver à sortir. Ah oui, je vois, mais même si je n'arrive pas, en tout cas, à un moment donné, je supplie le bon Dieu de m'apprendre, et c'est la charte que je vous ai dit hier, de m'apprendre à saisir la grâce qui est derrière. Toute la finesse du combat spirituel consiste à apprendre à saisir la grâce qui est associée à cette montée, à cette émergence, à cette remontée de l'émotion. Et donc je saisis cette grâce, et grâce à cette fumée, je sais où est la grâce, parce que je vais à sa source. Ça va ? Mais je ne vais pas vivre de l'émotion. Je vais descendre, et grâce à elle, supplier le bon Dieu de me dire, mais il y a une grâce en dessous qui est cachée, et il se trouve que cette grâce, elle se trouve où, c'est très avantageux, je tiens à vous le dire, parce qu'elle me permet de saisir en moi où je peux situer ou localiser mon âme spirituelle. Donc on disait tout à l'heure au petit déjeuner, mais tout le monde n'y était pas, donc je répète. Ouais, je sais très bien localiser mon âme. Mon âme, elle est là, elle est partout, elle est au centre, elle est partout. Ah oui, ça tu le sais, c'est ton intelligence qui le sait. C'est une espèce d'expérience que tu as, tu es capable de localiser ton âme. Tu peux faire l'induction de l'âme, par exemple. C'est très important de faire l'induction de l'âme pour un philosophe. Mais ici, on parle du combat spirituel, donc on ne parle pas de la même chose. Il s'agit donc que mon intelligence descende dans mon cœur et que la perception, le toucher de l'âme, ne se fasse pas par une induction intellectuelle. Le toucher de l'âme spirituelle ne va pas se faire par une induction intellectuelle, elle va se faire par l'intelligence du cœur. C'est-à-dire que c'est toi, en tant que personne, qui saisis où est ton âme, qui voit où est ton âme, comme on pourrait dire une étincelle, une petite lumière, qui est cachée, qui est tout à fait au centre. Mais ce n'est pas ton induction, c'est l'intelligence liée à ton cœur. Et l'émotion permet précisément, parce que je vois la vérité de la source de cette émotion, cette émotion, c'est quand même une tension d'amour réelle qui est la tienne et qui vient de toi. Trouver cette âme. Alors, je tiens à vous dire, pour certains qui s'intéressent de savoir par quoi il faut commencer sa vie spirituelle pour trouver son autonomie et sa force dans le monde d'aujourd'hui, pour vivre d'un monde, d'une vie nouvelle, eh bien, la première étape, le préliminaire absolu, le prologue, la condition sine qua non, c'est de saisir cette âme spirituelle en fond de là. C'est la première chose. C'est pour ça que c'est bien très important de faire peut-être travail d'examen de conscience sur la gestion des émotions, parce que grâce à la gestion des émotions, c'est là où je vais saisir la grâce qui est cachée. Il se trouve que la grâce, elle vient se lever où ? À l'endroit où se trouve le centre, cette source vivante de mon âme spirituelle. Si je la conjoins, en tout cas, au cœur sacré de Jésus. Ça va ? Parce que dans mon âme spirituelle est venu, c'est ce qu'on verra peut-être à Lourdes, est venu s'abriter comme dans un nid, dans un cocon, toutes les restes des sacrements. Toutes mes communions, lorsque toutes les restes des sacrements de l'Eucharistie que je n'ai pas exploités, ils sont venus où ? Ils ne sont pas partis dans la nature. Ils sont venus se loger au centre de mon âme en attendant que je vienne les utiliser 10 ans après.
je ne l'ai pas fait dans l'action de grâce 5 minutes après la communion. Les restes de tous les sacrements, le fruit de tous les sacrements. Et c'est quoi le fruit de tous les sacrements si ce n'est pas l'amour du feu, du Saint-Esprit qui brûle le corps physique de Jésus dans la résurrection? C'est bien ça, la reste de tous les sacrements. À bien regarder. Alors il se trouve que tous les fruits de tous les sacrements sont ici, logés là. Et donc au fond de mon âme spirituelle, il y a la grâce. Et cette grâce qui est liée à l'émotion que je saisis, ça c'est l'aspect enveloppant de la grâce. Mais elle me permet de saisir au fond de mon âme spirituelle la présence réelle et physique du feu qui brûle le cœur de Jésus dans la résurrection. C'est pour ça que la grâce qui est liée à une émotion, l'âme spirituelle et le cœur sacré de Jésus sont au même endroit. Bon, hein, vous comprenez? C'est peut-être la source de mon unité sponsale avec le Christ qui est là. C'est pour ça que si on n'a pas fait la théologie de la sponsalité, si on n'a pas fait la théologie de la reste des sacrements, si on n'a pas fait la théologie du corps spirituel, c'est-à-dire de la mémoire ontologique, on ne peut rien comprendre à tout ça, quant à la formulation exacte. Alors c'est précisément ce que, par grâce du bon Dieu, on a fait à Montpellier pendant 4-5 ans. On n'a fait que ça. On a regardé la mémoire ontologique, on a regardé la sponsalité, et on a regardé le point de vue aussi éthique, pour regarder les qualités affectives. On a regardé enfin la reste et le fruit de chacun des sacrements, n'est-ce pas? Et c'est là où on est... Saint-Michel-Archange, parce que vous savez que Saint-Michel-Archange, vous n'avez... Oh! C'est la sérénité. 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 Extraordinaire. Bon. Donc quand... Alors, et pareil, vous pouvez associer à cette âme spirituelle la grâce qui est au fond d'une émotion. Lorsque vous êtes lié au cœur sacré de Jésus, vous pouvez supplier à ce moment le cœur sacré de Jésus, à ce moment-là, qui est roi, avec Marie-Reine d'ailleurs, de tous les anges, de faire venir Saint-Michel-Archange. Et Saint-Michel-Archange doit jaillir de là. Et c'est là que vous trouvez la source en vous d'une sérénité parfaite, hein, cosmique. Comme ça qu'on fait jaillir peut-être une source de sérénité absolue. Bon, mais ça, j'allais dire, c'est peut-être... je suis désolé parce que, en même temps, je présente ça sous mode de méthode. Or, c'est pas une méthode. Hein? Vous êtes d'accord? Faites très attention. Si vous ne gérez pas vos émotions, ce sera une méthode. Tandis que si je gère mes émotions, ce n'est plus une méthode. C'est une vie nouvelle. C'est pas pareil. C'est quelque chose de simple. Ça va? Autre question. Je crois que c'est simple, hein? Autre question. Quelle est la grâce qui est cachée sous l'émotion de la jalousie? Bon. Alors. Je vous ai dit hier, je vous ai parlé de quelqu'un qui avait un frère jumeau. Et vous ne savez pas qui c'est, puisque celui qui va prêcher aujourd'hui et présider la messe, le prieur, c'est un frère jumeau aussi, donc ça pourrait très bien être lui. Il a lui aussi un jumeau et tout. Enfin, on est plein de jumeaux comme ça. Des phénomènes de jalousie irrépressibles pendant l'oraison. Parce qu'il y en a un qui vous passe devant. C'est un peu injuste. C'est vrai. C'est toi qui es plus fort et c'est lui qui passe devant. Ben, en toute humilité. En toute humilité. C'est vrai. Alors, tu vois, qu'est-ce qu'il y a de tout ça? Alors, tu essaies de dire, non, il ne faut pas que je sois jaloux, tu vois, toutes les étapes, hein. Tu dis, oh, ça ne va pas ça, et puis il y a l'attitude perfectionniste, puis après tu dis, ben, ça continue, et c'est pire, ça tourne encore plus, c'est encore plus dégueulasse, bon. Alors, et donc, etc. Alors tu cries, tu dis, Seigneur, mais ce n'est pas possible, puis après, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est exactement? Et puis après tu dis, je suis jaloux. Et tu laisses après, étape suivante, donc, dire, ah bon, ben, je suis jaloux, et j'assieds, je suis spectateur de cette jalousie, Puis je descends à la racine de cette jalousie. Jusque la grâce. Je demande au Seigneur quelle est la grâce qui est derrière ce truc-là. Là. Je sens bien que c'est une purification. Mais en même temps, je dis, Seigneur, mais où est la grâce qui se cache derrière ça? Qui est en dessous de ça? Et la grâce qui est en dessous de ça, à un moment, ça, je ne peux pas vous l'expliquer, mais la grâce qui est en dessous de ça, c'est pas de comprendre la gifle que vous avez reçue de votre mère, etc. Ça, on s'en fout complètement. Mais la grâce, c'est que le bon Dieu, il vous fait comprendre que si il a fait passer devant votre frère quand il est né, c'est lui qui est passé devant, c'est lui qui a eu la chaleur maternelle pour un bébé, c'est hyper important. C'est lui qui avait la chaleur maternelle de la mère en premier, du coup, en plus il était doux, il avait travaillé avec elle. L'autre, il arrive sans travailler, il glisse comme un toboggan. Alors, comprenez, regardez une vache, quand elle met au monde des veaux. Vous n'avez pas remarqué qu'une vache qui met au monde des veaux, le premier, elle le lèche, et le second, il donne un coup de sabot. Elle dit, mais le Seigneur a voulu ça parce que, vous comprenez à un moment donné, parce qu'il voulait, parce que c'est parce que je voulais, et c'est ça la grâce qui est cachée, je voulais que toi, tu sois premier dans un autre ordre, sous un autre rapport. Et vous découvrez le rapport sur lequel Dieu... Et il fallait que je le découvre grâce à la victoire d'une émotion de jalousie. Donc, quelle est la grâce qui est cachée derrière l'émotion? J'ai toujours pas répondu. J'ai repris l'exemple. Mais vous comprenez que je saisis une grâce derrière. La jalousie. La jalousie, c'est qu'on s'accroche à quelque chose de visible, à un avoir. L'autre a un avoir que je n'ai pas. À un pouvoir. L'autre a un pouvoir que je n'ai pas. L'autre a une fécondité que je n'ai pas. Celui-là, il m'est pourtant semblable. Il y a quelque chose d'injuste. Je pourrais, normalement, si toute chose égale par ailleurs, en toute justice, avoir la... Non, lui, il a une fécondité que je n'ai pas. Comprenez? Alors, c'est par rapport à l'avoir. Mon émotion me fixe sur le fait que l'autre a un avoir, un pouvoir ou une fécondité que je n'ai pas. C'est l'avoir. C'est pas au niveau de l'être. C'est que j'ai perdu complètement de vue ce que je suis du point de vue de l'amour. La différence entre l'être et l'avoir. C'est pas pareil de dire je suis la vérité. Je suis la résurrection. Et puis de dire j'ai le pouvoir de ressusciter les morts. C'est pas pareil. Le démon, comme dit la Vierge, à la Salette, et ben avec l'Antéchrist, il aura le pouvoir de ressusciter des morts. C'est un avoir. Mais il ne sera pas la résurrection. Ce ne sera qu'une apparence. Donc, la jalousie révèle donc un manque à être. Alors, comme je suis fixé au niveau de l'avoir, des choses extérieures, du pouvoir ou d'une fécondité visible, j'ai choisi de me fixer un jour, je ne sais pas depuis quand, depuis l'âge de 5 ans, 15 ans, 25 ans, j'en sais rien. Mais j'ai choisi à un moment donné, ça dépend, c'est la question des épreuves de la vie. Vous connaissez les épreuves de la vie que nous avions fait il y a 2 ou 3 ans, les 3 grandes épreuves de la vie, l'épreuve de l'enfance, l'épreuve de l'adolescence, l'épreuve de la maturité. On avait fait ça en éthique. C'est très important, hein, ça. Donc c'est en fonction, ordinairement, toutes nos émotions s'originent dans une des 3 épreuves. C'est pour ça que c'était si important d'avoir fait l'éthique aussi. Hein. Si on veut se rappeler, hein, les origines de nos déviances d'amour. Donc je reprends. J'ai choisi à un moment donné, par système de défense, plutôt que l'être, que je suis, qui est un être d'amour lié à cette loi éternelle qui est au fond de mon cœur, j'ai choisi par système de défense de me fixer sur l'avoir, sur le pouvoir ou sur une fécondité visible plutôt que sur ce que je suis. Par un système de défense. Et finalement, la jalousie révèle cette fuite dans l'avoir et elle révèle en moi un manque à être, au sens du « je suis ». J'existe. Et ce manque à être, au fond, et souvent, hein, c'est vrai, caché derrière un système de défense, un choix que j'ai fait de me défendre, de me protéger d'une certaine manière, dans l'enfance. Ordinairement, c'est dans l'adolescence, d'ailleurs. Donc la jalousie, vous pouvez traduire. La jalousie, c'est « il te manque une portion d'être en toi et Dieu veut te la donner ». Voilà, c'est ça la grâce cachée derrière la jalousie. Dis, mais Seigneur, c'est quoi? Alors, Seigneur te dira. Il te manque une portion d'être en toi et Dieu veut te la donner. Parce que si tu ne ressentais pas cette émotion si forte de jalousie, ça veut dire que Dieu n'estimerait que ce n'est pas encore le moment de te donner la portion d'être qui en toi te manque. Donc il te manque une portion d'être en toi et puisqu'il y a cette émotion-là, ça y est, tu as une grâce à saisir, il veut te la rendre, il veut te la donner. Au centuple, c'est-à-dire brûlé par, cette fois-ci, une présence d'amour, où c'est ton amour qui vivifie cet être, n'est-ce pas? La difficulté, c'est qu'est-ce que c'est que ce manque d'être, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette portion d'être? De quoi il s'agit au fond? C'est tout le problème. Hein? Alors, c'est pour ça que c'est cette portion d'être, elle vous est, dès que vous saisissez la grâce qui est au fond de vous, il y a, et que vous vivez au niveau de cette grâce, en disant oui, il y a une portion d'être que j'ai vécue, vous, du coup, vous acceptez de vivre au niveau de cette grâce, vous allez découvrir ce que c'est que cette portion d'être. Ça, personne ne peut vous l'expliquer. Mais en tout cas, c'est une portion d'être. Et donc, le problème, c'est de savoir quelle est donc cette portion d'être que le bon Dieu va vous redonner parce que vous l'avez, mais c'est brûlé par l'amour. C'est vous qui le découvrez en voyant comment votre vie change quand vous vivez à partir de là. Et qu'au lieu de sublimer la jalousie, au lieu, d'une part, d'obéir à cette jalousie, ou bien de sublimer cette jalousie, indigo, ou bien de refouler cette jalousie, vous allez au fond de cette jalousie, vous saisissez la grâce qui est cachée en dessous, et vous vous plantez, vous vivez de cette grâce qui est en dessous, et à ce moment-là, vous découvrez la manière d'être qui vous est donnée par Jésus. Et là, je vous ai donné de toute façon un petit exemple. Vous découvrez, il y a une blessure de jalousie profonde qui vient de votre frère jumeau, mais vous n'avez pas de frère jumeau, donc il faudrait que je prenne un autre exemple. Il est passé devant, d'une manière très très matérielle, le pauvre. Moi, j'aurais pas voulu passer devant ça, pourtant. Et en même temps, donc, il y a toutes sortes de jalousies. Je me suis... C'est là, c'est quand j'ai fait mon novice que j'ai compris à quel point c'était puissant, cette jalousie de l'enfance que j'avais quand j'étais avant le langage. C'est là que j'ai compris à quel point cette chose de jalousie était d'une puissance, parce que vous vous dites, d'une puissance vraiment infernale. Et je l'ai vu sur tel frère, tel frère, tel frère. C'est un truc qui effrayait le père Emmanuel, ça. C'est un truc qui a traumatisé le père Emmanuel, ça, je m'en rappelle. Mais une jalousie, mais je ne comprends pas. Mais moi, je lui dis, mais non, mon père, moi, j'étais habitué à la jalousie. Hein. Non, je suis pas jaloux, moi, moi j'assume. C'est rien, ça, c'est...
Ah non, je ne crois pas, non.
Ah bon? Et c'est ça qui l'a fait m'envoyer à Hobbes. Il ne pouvait pas imaginer qu'après sa mort, il sentait que lui, il arrivait à maîtriser la bête, mais qu'une fois qu'il serait mort, ce serait immaîtrisable, ça. Donc, il fallait l'envoyer ailleurs. Il m'a envoyé à Hobbes. Et bien, du coup, je suis Hobbes. Mais donc, quelque part, c'est pas pour être Hobbes, vous comprenez. Mais la grâce qui est cachée, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, la grâce qui est cachée, c'est je découvre à quel point il y a une jalousie. Et je découvre aussi la grâce qui est cachée en dessous. Et découvrant la grâce qui est cachée en dessous, quand je la vis, je m'aperçois que finalement, oui, c'est parce que Dieu, depuis ma conception, depuis avant ma naissance, depuis le sein de ma mère, depuis l'éternité, il m'a choisi pour passer devant un certain type de mission ou de grâce. Parce que pour être le premier dans un certain ordre, il faut que le Christ le mérite en nous, avec nous et pour nous. Donc il faut que vous fassiez le deuxième lorsque vous êtes petit, quoi. Pour comprendre que vous n'êtes pas le premier sous un ordre humain, sous un ordre terrestre, sous un ordre. Ça ne veut pas dire que je suis premier dans l'ordre que vous pouvez imaginer, dans un ordre extraordinaire, non, non. Dans un ordre différent. Alors, de toute façon, chacun, on est premier dans un certain ordre. Hein, et dans, qui n'a pas jamais ressenti des émotions de jalousie? Mais enfin, grâce à cette émotion-là, je découvre dans quel ordre je vais être au fond. Dieu me choisit comme le premier. C'est une très importante, ça peut être important pour découvrir une vocation, pour se stabiliser enfin là où je suis moi-même choisi par Dieu. Et je vois que c'est quand même plus agréable que quand j'étais dans les émotions de jalousie. Ça va? Autre. L'agressivité. Quelle est la grâce qui est cachée sous l'émotion de l'agressivité? Bon, n'oubliez pas que l'agressivité est un sentiment normal. Et qu'on n'est pas responsable des montées d'agressivité qui sont en nous. On est responsable de ce qu'on en fait. On n'est pas responsable de ces montées d'agressivité qui sont en nous. On est responsable si on commence à leur donner une expression verbale ou gestuelle. Dans l'agressivité, et puis dis bon merde. Voilà, ça y est, là, j'ai obéi à l'émotion d'agressivité, là, je suis responsable. Mais que j'ai une émotion d'agressivité, là, lancez un regard, là, je suis responsable. Vous voyez, lancez une pique, là je suis responsable. Mais qu'il y ait une émotion d'agressivité, c'est normal. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'obéis pas. Donc c'est un sentiment normal. Ça signifie que c'est une émotion indispensable pour pouvoir rentrer dans le travail de deuil et de guérison de la mémoire. Indispensable. Donc tout le problème, c'est si je reste stabilisé tout le temps, coincé dans une émotion d'agressivité depuis 20 ans. À ce moment-là, ça veut dire qu'au niveau du travail de deuil, il y a une étape que je ne franchis pas. Ça, c'est pas normal, par contre. C'est une émotion qui est présente dans toute personne humaine, ne vous inquiétez pas, et qui va émerger, sachez-le bien, chaque fois que je suis en danger. Ce n'est pas tellement une question de manque à être, hein. C'est chaque fois que je suis en danger. Ça va revenir. Et à un moment, on est hyper sans danger, une montée d'agressivité. Et c'est marrant parce que vous voyez l'agressivité, mais vous ne voyez pas que vous êtes en danger. Vous ne voyez pas que... Or, c'est ça qui est caché derrière, ces petits clignotants, c'est ça? Et ça signifie, ça revient à dire, votre émotion, votre tension intérieure d'amour dit « Stop ! Défense d'entrée ! Vite, je mets une chaîne. Propriété privée. Je ne fais pas d'accueil. » Vous comprenez ? Je me défendrai jusqu'à la mort. Pas question, on ne touche pas à ça. Pas touche, bébé. Viens pas regarder. Vous comprenez ? Ça touche mon espace vital de sécurité. C'est ça, ce qui est caché derrière l'agressivité. Donc, on va rentrer dans cette émotion chaque fois que nous sommes menacés. C'est une menace qui est derrière. À chaque fois qu'on va être menacé de perte, de séparation. Séparation de son enfant, qui par exemple, qui va se marier. Séparation de... son mari, qui va partir 2 mois en stage aux États-Unis. Séparation, vous voyez, de déstabilisation, déménagement. Il faut qu'on vende la maison, qu'on parte en Lozère. pour ça que c'est bien quelquefois de provoquer comme ça des occasions, n'est-ce pas? Donc toutes sortes de déstabilisations, de changements, de pertes, de séparations. Dès qu'on est menacé dans ces occasions-là, de pertes, de séparations, de changements, de déstabilisations, à ce moment-là, se présente immédiatement le panneau, hop! Affectivement, défense d'entrée, attention, touche pas à ton pote. À ce moment-là, touche pas à ton pote, c'est l'expression, touche pas à mon pote, c'est touche pas. C'est l'expression vraiment de sentiment d'agressivité, c'est vrai. Bon, donc n'oubliez pas que dans le sentiment de l'émotion d'agressivité, comme vous le savez d'ailleurs, puisque vous l'expérimentez, il y a toujours les deux choses. Il y a l'aspect pécamineux, il y a un aspect de péché, certainement, qui est derrière, mais il y a aussi une source d'amour qui est derrière et qui est à la racine. Il y a un sentiment spirituel qui est derrière. On est donc d'accord. C'est une double émotion. Il y a une émotion affective, psycho-spirituelle, et puis il y a une source spirituelle. Donc il y a quelque chose de positif qu'il faut trouver. Le sentiment spirituel, c'est une certaine colère positive. C'est un sentiment, au fond, d'injustice. Parce qu'à chaque fois que vous vous mettez en colère, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose de profondément pas juste. Injuste. Pas ajusté à l'amour profond qui est en vous. C'est pas en harmonie avec l'amour profond qui vous habite. Alors il y a une colère. Ce sentiment-là, au niveau positif, hein, donc l'émotion d'agressivité, il y a un double chose. Il y a un aspect pécamineux et un aspect spirituel. L'aspect spirituel qui est bon, c'est celui-là. C'est de dire au fond, ben, non, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Nous portons au nom, en nous, dans notre cœur, profondément cette inscription de la justice de Dieu. Très profondément. La justice de Dieu, c'est la justesse de son amour. Son amour est bien ajusté. Et on porte ça profondément au fond de nous. Et cette colère, eh bien, elle jaillit d'où? De notre conscience d'amour. La colère, au fond, c'est un peu ça. C'est à l'occasion d'un événement un peu extérieur. C'est pas fait pour vivre ça. C'est pas ça que je suis appelé à vivre. Je suis pas appelé. C'est pas écrit ça sur le livre de vie de ma vie éternelle, de vivre ça. Enfin, profondément, voyez. C'est pas clair, il y a quelque chose qui est pas clair, il y a quelque chose qui est pas juste. Donc cette colère, au fond, manifeste un dynamisme profond et indispensable pour traverser l'épreuve en question et pour savoir entrer dans le travail de deuil. Puisque dans le travail de deuil, il faut que j'accepte de rentrer dans l'étape de la perte et de la séparation. Je suis capable de me séparer et de perdre une fausse sécurité. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ça la perversion du sentiment d'agressivité, c'est que sa naissance c'est pour préserver une source d'amour et de justice, une soif de justice, et en fait ce que je vais attaquer c'est précisément cette source en attaquant l'occasion. Vas-y bien. Je suis, c'est comme Gédéon, le livre de Gédéon, on voit Gédéon. Le Seigneur lui montre comment il faut faire. Il dit, tu prends des cruches, tu prends des torches. Au lieu de prendre 60 000 hommes, il part avec 60 000 hommes. Le Seigneur lui dit, dis donc, il y en a 40 000, laisse-les tomber. Dis-leur, ceux qui ont peur de se battre ou d'aller à la guerre, parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous, pour rentrer à la maison, retrouver leur femme et leurs enfants. 40 000 s'en vont. Ils se retrouvent avec 10 000 qui veulent se battre, en découdre, jusqu'à la mort. Contre les... c'est pas les Amalécites d'ailleurs, c'est les...
Et en même temps, ils sonnent de la trompette. Alors tous les autres, les 300 autres, partout où ils sont, ils passent dans le camp, cassent la cruche. Cassent la cruche. Et sonnent de la trompette. La trompette, c'est quoi dans l'Apocalypse, hein? La trompette, c'est le moment où Dieu intervient. Et à ce moment-là, tous les 100 000 qui sont hyper aguerris au combat, vachement forts, tout ça, sortent de leur tente, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur... Ils prennent leur glaive, leur bazooka, leur tir, une ombre. Et comme ça, ils se tuent tous entre eux. Et les autres, ils sont là. Et comme ça, à 300, ils dispersent toute l'armée ennemie. C'est extraordinaire, comme symbole. Hein? Mais c'est raconté comme ça dans la Bible. Il n'y a rien inventé. Est-ce que ceux qui l'ont lu là, c'est pas inventé un seul détail. Alors, c'est ce que je disais que pour l'agressivité. Si je reste au niveau de l'agressivité, regardez l'erreur de l'agressivité. C'est que je suis sur qui vive, hop, et dès que je suis à l'armée, hop, agressivité. Et je tire sur moi-même. Alors que cette agressivité, quelque part, profondément, elle vient d'une source de justice, de soif de justice, d'amour. C'est Dieu, l'inscription très forte du Dieu de la justice, là justement, là, l'amour, quoi. Le Dieu de la justice qui est au fond de mon cœur. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est que, en raison de cette tension d'amour, elle est déviée, et du coup, si j'obéis à cette tension d'amour, et bien, quelque part, j'agresse qui? Finalement, j'agresse le mauvais, quoi. Le mauvais ennemi, si je puis dire. C'est ça le problème. Donc, alors, du côté, on comprend qu'il y a un côté positif. Donc. On comprend aussi qu'il y a un côté pécamineux. Le côté pécamineux, c'est la révolte. Le côté pécamineux, c'est cette révolte. Il s'agit en même temps, du coup, de trouver un coupable et puis de le casser, quoi. Il faut une tête de Turc, quoi. Il faut une tête de Turc, c'est pour ça qu'ils sortent tous de la tente, et puis il y a une ombre, bouf. Hop, le premier qui passe, tant pis pour lui, quoi. Alors si c'est avec lui que vous vivez, ben, c'est vous qui prenez tout. Et puis c'est tout. Donc les deux sont mêlés, hein. Il y a en même temps un sentiment de souffrance, d'amour, c'est la colère spirituelle, et en même temps, un petit sentiment qui dit c'est le Seigneur aussi, c'est Dieu qui fait ça, enfin, on attaque contre Dieu, mais qu'est-ce que Dieu... Vous voyez, le tableau que je vous ai donné hier, sentiment d'agressivité, hein, au fond, tu m'agresses, Seigneur, il me fait mal, hein. Seigneur, tu me fais souffrir. Seigneur, tu viens encore m'attaquer, quoi. Il y a un petit peu une révolte contre Dieu et une révolte contre la première ombre qui passe. Donc la révolte, c'est un signe négatif. C'est un signe de non-pardon. Et c'est un signe aussi de désir de vengeance. Donc il faut qu'il s'origine bien quelque part, dans une des épreuves de ma vie. Enfance, adolescence ou épreuve de la maturité. L'épreuve de la maturité, c'est quand je me suis converti, j'ai décidé de m'y mettre au point de vue humain. Chrétien, ordinairement chrétien aussi. Je vois des gens qui se convertissent à 40 ou 50 ans. Hein. À bien regarder, hein. C'est pas parce que vous êtes allé toujours à la messe que vous êtes. À un moment, vous vous dites, bah oui, tiens, il faut quand même que. Oh. Là, c'est l'épreuve de la maturité, ça. Qui commence. Donc, à un de ces moments de ces épreuves, voilà, il y a eu un désir de vengeance. À un moment donné, je ne sais pas, adolescence, à enfance, ou dans la période embryonnaire, je veux bien. Enfin, il ne faut pas trop toujours voir que c'est dans la période embryonnaire, il n'y a pas que ça. Il y a un non-pardon qui a été donné, un désir de vengeance. Donc, il faut voir, avec l'émotion d'agressivité, il faut voir, au plan spirituel, j'ai une émotion, mais comment je vais gérer cette émotion d'agressivité? Comment je vais agir avec ça? Voilà le problème. Alors, vous savez, je vous avais déjà montré le tableau des racines amères. Le tableau que vous avez, qui est-ce qui ne l'a jamais eu, ce tableau?
Oh, allez, je rêve. Mais je l'ai distribué en 100 exemplaires de sang au moins.
J'en ai que 3.
Bon, enfin, peu importe. Peu importe. Vous avez le tableau. Vous avez un bateau, c'est-à-dire que c'est vous. Vous avez un bateau qui est en train de circuler sur la mer, sur l'eau. Il y a beaucoup de couches. L'eau, c'est les années. 10 mètres d'eau, 10 ans. 10 mètres d'eau, 10 ans. 10 mètres d'eau, 10 ans. Vous êtes sur le lac. Mais de la terre, de la profondeur sous-marine, jaillissent des racines d'où montent des algues. Hein, des espèces d'algues flottantes. Et elles arrivent ici. Et votre petit bateau, il paf, il bloque sur l'algue. Alors, je ne sais pas si je me rappelle quand j'étais gosse avec mon frère, on aimait bien aller sur cette espèce de lac là. Mais il y avait des algues. Alors, dès que tu rentrais dans les algues, pour avancer, pas commode, parce que les algues, quand elles se présentent en surface, ça fait un espèce d'îlot. Alors, une fois que tu es dedans, pour avancer, c'est pas commode. Les algues t'accrochent, tout ça. Tu butes sur les algues. C'est marrant parce que cette algue-là, ce flot d'algues, c'est le même flot d'algues que sur lequel tu as buté, ça c'est 40 ans, quand tu avais 30 ans et qui t'est arrivé, et c'est le même événement analogique, tiens 10 ans ici, même événement analogique ici. Ça s'enracine en réalité dans les toutes premières réactions d'agressivité et de révolte contre Dieu que tu as eues en contractant l'héritage du péché originel. Et d'où est né les deux passions mères, la convoitise d'une part, l'orgueil d'autre part, ça s'appelle les deux grandes séquelles du péché originel. Il faut remonter jusque-là, pour te dire, derrière la passion d'agressivité, la révolte contre Dieu qui est au fond de moi, et en même temps, cet ajustement total avec la présence, l'ajustement d'amour de Dieu vivant en moi, qui était dans la première séquelle. Et n'empêche que si je veux vaincre cette première révolte, ce premier choix spirituel, qui était le mien, que je ne m'en rappelle plus en fait, c'était si profond, hein, et par lequel j'ai participé personnellement au péché originel quelque part, il faut que j'arrive à vaincre ici cette même révolte, donc que gère cette émotion d'agressivité, que je descende dans la grâce qui est cachée en dessous, et que je puisse la vaincre. À ce moment-là, je lave la racine elle-même. Hein. Parce qu'une fois que c'est vaincu, on ne le retrouvera pas 10 ans plus tard. Et mon bateau pourra naviguer, vraiment. Ça marche. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les racines amères. C'est le tableau des racines amères. Et c'est facile à comprendre. Faites les photocopies. Non, mais j'ai pas besoin que vous fassiez 800 photocopies. Non. Oui, à Montpellier, donne à ceux qui ne sont pas à Montpellier. Bon. Donc, l'algue qui arrive à la surface, elle a pour seul désir de proliférer. Comprenez? Et elle va gêner l'avance du bateau. Cette algue, elle s'origine donc au fond de la mer, vous voyez, je relis ce que j'avais noté, et je ne vois que ce qui dépasse au niveau de cette algue. Je ne vois pas la racine amère correspondante. Et l'algue, elle ne cesse de monter, vous voyez, émotion. L'algue, elle ne cesse de monter, de pousser. La racine amère ne cesse, c'est un mouvement de montée dans mon océan intérieur. Ça va? L'algue, c'est un mouvement de montée, cette émotion. C'est un mouvement d'ascension. Et cette racine amère veut se développer en moi et proliférer à ma surface d'agressivité. Or, l'écho dans mon psychisme d'un feu spirituel ne procède pas par la montée, comme je vous l'ai expliqué. Il procède par la descente. C'est pour ça qu'on dit bien dans l'Écriture que l'Esprit Saint descendit sur les apôtres, que le Verbe de Dieu descendit en nous, que le Verbe de Dieu s'incarna en nous. Par la descente, le feu d'en haut va nous inviter à descendre dans les profondeurs de la mer et à visiter avec Jésus, progressivement, comme lui le veut, nos régions inférieures, nos sources vitales les plus profondes, nos enfers, nos racines amères. Donc la colère, concrètement, pas besoin de vous expliquer que je sors de mes gonds. Alors je dis, qu'est-ce que ça signifie? Donc rappelez-vous, ça veut dire défense d'entrée, stop, passe pas, touche pas. Et encore, ça veut dire aussi défense de descendre dans mes racines amères. Je me suis révolté, c'est décidé, et puis c'est tout. Contre Dieu. Je me suis révolté contre Dieu, c'est décidé, et puis c'est tout. Et je ne veux pas remettre ça en question. Voilà ce qui est caché. Et que je transpose sur une agressivité par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à un prétexte. Mais la réalité vraie de mon amour et de mon choix responsable qui est caché derrière, c'est ça. Non, non, descends pas dans ma racine amère avec Jésus. Je ne veux pas changer cet état de révolte contre Dieu. Défense d'aller voir ce qui se trouve tout à fait en dessous. Alors, qu'est-ce qui se trouve en dessous de l'état d'émotion d'agressivité? Alors ça, c'est la connivence, la complicité. La connivence, c'est ça qui est caché. Il y a eu une connivence dans ma racine amère profonde, fondamentale, très permanente, depuis pratiquement ma conception, ma naissance, qui est là, puisque c'est lié, comme je vous l'expliquais, donc, aux deux passions mères, concupiscence l'esprit, concupiscence de l'orgueil, et concupiscence et orgueil, pardon, il y a donc cette connivence avec l'humanité révoltée, séparée d'avec Dieu. À chaque révolte, je peux démasquer une connivence. C'est ça la grâce qui est cachée derrière la révolte. Je peux détecter, démasquer une complicité profonde. À chaque révolte, je peux démasquer quelque chose que j'avais entassé derrière une armoire comme Barbe Bleue, qui avait entassé les cadavres de toutes ses concubines, après les avoir égorgées. C'est l'histoire de Barbe Bleue, j'espère. Et, enfin, si vous la connaissez pas, tant mieux. Bon, je ne veux pas savoir ce que c'est que Barbe Bleue. Ah, ou ça serait... Par contre, c'est plus... Et attention, hein, vous rentriez chez Barbe Bleue, surtout si vous étiez la nouvelle fiancée, il vous disait, tu ouvres pas ça. Tu ouvres pas cette armoire là, hein? Tu rentres pas là. Hein? C'est ça l'agressivité. Hein? Pas touche, tu rentres pas dans toutes mes connivences. Pas question de fouiller là-dedans. Et si tu commences à signifier que tu passes dans cette direction, stop, allons, stop, alors là, l'agressivité apparaît. Alors que le Barbe Bleue est très séduisant jusque-là. Hein? C'est donc très intéressant ça. Parce qu'à chaque agressivité, le Seigneur met le doigt. Sur ce que je n'ai pas voulu donner, tout en disant que finalement je donne tout. Parce qu'en réalité, vous dites, moi je donne tout au Seigneur, et voilà, le Seigneur il continue à m'agresser. C'est ça l'agressivité quelque part. Moi je suis l'épouvantail dans un champ, dans cette histoire. On me considère comme quoi? Comme un espèce de... que c'est l'homme de paille, quoi. C'est ce que je disais hier, si on me prend pour un homme de paille. Hein. Mais c'est vrai. Moi, je suis sûr, à un moment, c'est ce que tu dis. Je suis le couillon de la part dans cette histoire-là. Voilà, vous dites, je suis la dernière rue, ça. J'ai tout donné, et voilà ce que... Et on m'agresse. Hein. Pas juste. Mais en réalité, c'est pas ça. Vous voyez bien. Ça, c'est mon émotion qui s'exprime comme ça, l'agressivité. Mais en réalité, profondément, c'est pas ça. C'est pas vrai. Il y a une connivence. À chaque agressivité, le Seigneur met le doigt sur ce que je n'ai pas donné, tout en disant le contraire, à savoir que j'ai tout donné. Si je dis, j'ai l'impression d'avoir tout donné, et que justement je n'ai pas donné ce que je pense avoir donné, il y a une émotion d'agressivité qui apparaît. Et c'est ça la grâce. Il n'y aurait pas d'émotion d'agressivité sinon. Vous connaissez l'histoire de la parabole du fils. Vous
avez le fils qui dit,
est-ce que vous voulez aller à ma vigne, là? Alors, il y a deux fils. Alors, il y a un fils qui dit, bon, ah oui, 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 ça, alors là, j'y vais, hein, c'est bien, j'y vais, hein. L'escu, quoi. Ouais, ouais, j'y vais, hein. Le paillot, hop, il y va. Et puis finalement, il y va pas. Et puis il y a l'autre qui dit, ah non, non, à la vigne, parce que la vigne, évidemment, la vigne, c'est, faut comprendre ce que c'est que la vigne, hein. Il y a la vigne, il y a le raisin, mais enfin, il y a le pressoir de la croix. Il y a le pressoir, puis il va passer le vin pour faire du vin. Vous allez à la vigne. Alors le premier dit, ouais, ah ouais, moi je veux bien aller à la vigne. Hein? C'est-à-dire à la cuve. Mais au pressoir, c'est-à-dire à la vigne, pour passer par le pressoir de la croix, le deuxième, il n'est pas idiot, il dit, à la vigne, ah non, non, ça va, j'ai déjà donné. Hein? J'ai déjà donné. Pousse, passe pas. Il dit non. Et il a l'émotion. Et il le dit.
Oh bon Dieu. Mais il rentre. Et finalement, il va à la vigne. Il prend. Il accepte de rentrer. De laisser Jésus descendre avec lui dans ce nom qui est le sien. Et Jésus portait avec lui ce nom qui est le sien. Et donc Jésus, ouvert dans son cœur blessé, est là en lui, dans cette émotion d'amour. Et finalement, Jésus peut être enfin crucifié grâce à lui, en lui. Et le Golgotha du Christ n'est pas inutile. Et à ce moment-là, il trouve la grâce qui est en dessous, et il boit le vin des noces. Ses deuxième fils, il finit par y aller. Allez bien. Parce que quand le deuxième fils il dit non, il est tout de suite touché dans sa connivence, sa complicité avec... voilà. C'est-à-dire son refus de laisser ouvrir une porte en lui pour que Jésus descende. Et pourtant, en même temps, il va, du coup, grâce à ça, pouvoir descendre et accepter de mourir à lui-même. Ça va? Et il va accepter, mais cette fois-ci uniquement par amour de la présence du Père au fond de lui, il va accepter de faire la vérité sur lui-même. Et vous sentez bien que de se donner, ce n'est pas extérieur. De se donner, c'est tout profondément intérieur, c'est de vivre cette grâce d'une vie nouvelle qui est au fond de nous, notre âme. C'est de vivre nous-mêmes, dans notre propre identité, là où on se trouve, dans les mains du Père de la vie, tout ajusté à son amour, comme dans notre origine, avant que nous ayons été percutés par l'héritage du péché originel et... alors que nous ayons été comme ce buvard qui a pris tout le mal de ce monde, parce que nous sommes très récepteurs, très capteurs. La première cellule, il y a des récepteurs. Il y a des ARNT, acides ribonucléiques transmetteurs. Récepteurs et capteurs. Sinon, ça ne pourrait pas produire des protéines. Hein, ceux qui ont fait la biologie, n'est-ce pas? Les grands spécialistes de biologie, comme le grand Gilles. Alors on est très réceptif dans la première cellule moment du monde. Et donc, on reçoit, paf, toute la symbiose ténébreuse de ce monde. Comprenez? Voilà. Donc l'attitude juste face à une remise en cause profonde. Ce sera l'agressivité. Dès que vous êtes remis en cause, aussitôt, agressivité, et ça c'est une attitude juste. Et vous dites, ah non, 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 et bien ça c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester dans le, ah non, 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 non. Il faut descendre avec Jésus, découvrir la grâce qui est cachée, parce que ce non, je ne veux pas, ben, il ouvre enfin la porte à une solution, de pouvoir puiser dans l'amour profond, dans lequel j'ai été originé, dans la Créateur de Dieu, à ma première cellule, quand le petit spermatozoïde a rencontré l'ovule. Alors à ce moment-là, je peux puiser dans l'amour, là où il se trouve. Et l'amour de Jésus va me permettre de débloquer ce « non, je ne veux pas, pas touche !» Donc cette impasse va devenir une porte. parce que cette révolte met le doigt sur une connivence. J'ai changé l'ajustement à l'amour vivant de mon père qui me donne la vie en une connivence, un ajustement avec une complicité de révolte. Et met le doigt dessus. La connivence, si vous préférez, définition de la connivence, c'est l'endroit en moi où je dis oui, 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 et où en réalité je fais non, 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 non. C'est ça la connivence. C'est la duplicité, si vous préférez. Vous savez, quelqu'un qui est en connivence avec l'ennemi, hein, il dit oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et en réalité il est avec l'ennemi, c'est non, non, non. Vous dites oui, 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 premier fils. En réalité, et l'autre, et en fait, vous faites non, 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 non. Parce que le deuxième fils, lui, il dit non, 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 il accepte de faire monter, il rentre dedans avec Jésus, et du coup, c'est le oui du Christ qui est vainqueur. Au fond, j'agis de façon incorrecte. J'ai obéi, c'est ça l'agressivité, c'est cette note, si elle perdure, elle signifie que j'obéis à cette connivence. Et que cette montée de l'émotion, je ne l'ai jamais gérée, et du coup, j'y obéis. Tout le temps. Donc en pratique, comment est-ce qu'il faut gérer cette attitude? Comment est-ce qu'il faut gérer l'attitude d'agressivité? Alors, pratiquement, première attitude. D'abord, il faut rentrer dans cette émotion. Je n'irai pas le savoir. Mais attention, pas pendant une heure, hein. Je m'en fous complètement. Moi, ça fait 10 ans que ça dure. Une heure de plus. Non, juste là, le temps d'une petite, un petit moment d'oraison, quoi. Ça dure 2-3 minutes, pas plus. Agressivité, je la laisse prendre sa place. Je rentre dans cette émotion en manifestant, par exemple, de la violence. Ça peut être une violence, on va dire, oh, merde. Verbale, mentale, gestuelle, etc. Cette attitude-là, si vraiment j'y reste, c'est une chute, puisque j'ai projeté sur l'extérieur cette émotion. Mais il y a un aspect extérieur qui est en moi, c'est le mental. Hein. Donc j'ai mal géré. Alors ça se traduit par je me justifie tout le temps, je t'accuse, je te condamne. Première attitude. Deuxième attitude, celle du perfectionnisme. Première attitude, c'est le stade 2. Deuxième attitude, qui tombe sur le perfectionnisme. Attention. Ça correspond à la question que j'ai eue tout à l'heure. Je refoule. Non, 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 je ne dois pas être agressif. Bon, il faut quand même que je fasse quand même, je me maîtrise un peu. Et que je fasse le petit sourire. Bon, que je coopère au moins un minimum. Sinon, vraiment, je vais avoir une réputation abominable. Et puis après tout, il faut quand même que ce soit la hauteur de la parole donnée. Et si, et là, et je roule des mécas. Bon, je vais sourire malgré tout. Je vais prendre sur moi Kant, impératif catégorique. Mystique protestant. Tous les protestants sont pas comme ça. C'est la... C'est la théologie, j'allais dire, de l'impératif catégorique enseignée par Luther. Mais heureusement, les protestants, sous l'effet de la grâce, vivent évidemment autrement. Mais c'est la théorie qui est fausse. C'est pas leur pratique. Leur pratique, elle est juste quelquefois. Heureusement, parce que la grâce travaille en eux. C'est pas parce que les protestants il agit uniquement par l'impératif catégorique. Souvent, c'est les cathos, au contraire, qui font comme ça. Stoïciens, c'est. Alors, à la force des poignets. Surtout Saint Prosper qu'on va fêter aujourd'hui, 25 juillet, il a combattu la fameuse hérésie en Provence, néo-pélagienne, c'est ça. Le néo-pélagianisme, Saint Prosper d'Aquitaine, qu'on fête aujourd'hui, il a lutté contre ça, à la même époque que Saint Augustin. Néo-pélagien, c'est, eh bien, c'est à moi de faire, c'est à moi de maîtriser, c'est à moi de... maîtrisée par les cornes, le taureau, la bête. Et puis, allez, calme-toi. Un sourire, et tu coopères, ça va passer. Et donc, à nous de le faire. Hein? J'ai connu un jour un père qui disait ça tout le temps. Eh bien, le Seigneur nous a dit de ne pas être agressif, donc, eh bien, à nous de ne pas être agressif. Et puis, puisqu'il nous l'a dit, eh bien, faisons-le. Et c'est à nous, eh bien, de le faire. Eh bien, non, c'est le Christ. Ça, c'est le secret de la vie chrétienne. Hein. C'est pas de néopalaisonisme. Du coup, parce que sinon, si c'est la force des poignets, eh bien, en réalité, je refuse de voir ce qui m'habite. Et finalement, je me blinde. Et quand ça pète, je peux vous dire, ça fait mal. Hein. Et je meurs. En 3 semaines, je meurs. Tout pète. Troisième attitude, stade 3. Je reconnais l'émotion. Et à travers l'émotion, je reconnais, ah tiens, connivence, oui tiens, c'est marrant, tiens, ah, je dis non à mon père. Ça va me faire la peine d'ailleurs de voir, tiens, encore, je dis non à mon père. Mais du coup, je peux regarder en face ce non à mon père. Et je vois cette racine amère qui sort de l'eau. Je vais exprimer cette colère à un tiers, à un confesseur par exemple. J'en veux aussi. Je demande pardon parce que j'en veux au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en veux au Seigneur. J'en veux. Parce que il faut quand même que je me donne le droit d'exister. Il faut que je verbalise mon émotion. Et j'ai le droit de me mettre en colère. Le fils, le bon fils, il dit « Non, j'irai pas !» On a le droit de dire, cette émotion a le droit de se dire telle qu'elle est. On n'a pas le droit d'y obéir, mais on a le droit de l'exprimer telle qu'elle est. Donc je ne vais pas combattre de front cela, donc je ne vais pas l'alimenter, en cherchant à... Je ne vais pas non plus essayer de la maîtriser. C'est-à-dire cette révolte, non, il faut que tu dises oui, etc. À force de poignée. Mais en l'exprimant déjà, en la confessant, elle va déjà perdre de son mordant. Mais il faut la prendre dans tes mains, ce nom, et le déposer dans le cœur de Jésus, broyé d'amour, broyé par nos péchés, le déposer au pied de la croix de Jésus, ce nom. Non, je le dépose au pied de la croix. Et du coup, je rentre dans la joie progressive de savoir que Jésus qui lave, qui libère, qui guérit, se cache ici, là, dedans. Exactement là. C'est là qu'il se cache, qu'il me lave, qu'il guérit. C'est là qu'est son cœur sacré. C'est là qu'il se trouve, et pas ailleurs. J'ai trouvé l'endroit où il me lave. Et du coup, il y a la joie de le savoir que c'est à l'échelon, que c'est là l'échelon où il m'attend avant de pénétrer dans la demeure suivante de l'union mystique avec lui. C'est là la porte d'entrée dans l'union transformante. Que le chemin de la vérité, de la vie, le chemin de la vérité, de la vie, donc le je suis du Christ qui est mon chemin, ma vérité et ma là, personnellement, vivant. Et que ça va redémarrer avec Jésus, si j'accepte d'aller au cœur de la blessure correspondante. Et alors va naître une joie progressive, tout doucement, hein, sans forcer. Sans forcer.
C'est pas vous, hein, qui... Non, non. Vous descendez. Ah tiens, c'est là que je me lave. Ah bah tant mieux. Je vois progressif, tranquille. Tout petitement, comme ça. Et je vais goûter à l'humiliation que cela engendre. Bon, ça va. J'ai un mauvais caractère, mais grâce à ça, j'ai trouvé Jésus et je le laisse me laver, me laver. Donc dans ce cri, une fois que j'en suis là, je demande la lumière du pourquoi. Donc une fois que j'en suis là, je demande la lumière du pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Il faut que, Seigneur, tu me révèles pourquoi il y a ça. Surtout pas de psychanalyse, pas d'analyse, etc. Hein? Où on sort tous les trucs. Non, non, non. Mais une attitude de prière. Une attitude d'union avec le cœur de Jésus. Pour savoir ce que le Seigneur va me donner ici comme grâce illuminante. À travers une intelligence spirituelle. Il ne s'agit pas donc d'une introspection, mais il faut accueillir au fond de cette agressivité, accueillir cette lumière de Dieu. Parce que lui, il sait comment j'ai réagi personnellement dans toutes les épreuves de ma vie. Moi, je ne me rappelle plus du tout. L'introspection, ça soulève des nœuds, si vous voulez, et c'est très mauvais. Parce que souvent, enfin, souvent les gens qui font un accompagnement spirituel, et puis ils essaient de... Ah bon, alors attends, est-ce que ce n'était pas un problème tout genre, et puis tu arraches tout. Mais ce n'est pas le Seigneur qui le fait. Et ça ne vient pas au bon moment. Il y a des trucs qu'il ne faut pas sortir comme ça. Alors que ce n'est pas le moment. Ah, tu vas sortir des blessures, par exemple, je sais pas moi, de parce que ta mère, elle a fait, elle a, je sais pas moi, qui correspond quand il y avait, alors qu'il faut d'abord que Jésus vienne glorifier quelque chose qui correspond à une blessure de l'adolescence, quand même, avant. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de sortir, hein. C'est l'introspection ou la psychanalyse. Non, il faut que ce soit la gestion des émotions. Il faut que cette lumière vienne d'une attitude de prière, de don de science, on appelle ça. Le don de science, c'est ça. Demandez l'esprit de science de Dieu. Le don de science de Dieu. La lumière de Dieu découvre le lieu où l'amour bien ajusté du Père m'attend aujourd'hui. Et donc tout d'un coup, brutalement, vous allez voir que si vous faites ça, vous allez saisir, comprendre, vous allez vous rappeler. Ah mais oui, c'est marrant ça. Mais oui, bien sûr, il y avait ça quoi. Il y a eu ça. Ah ouais. On m'a dit pendant 5 ans que j'étais un nabo et... Je sais pas, c'est hein, à l'école, hein. La cruauté des gosses les uns avec les autres, hein. C'est dingue. Enfin, qui n'en a pas souffert de ça? Mais on m'a dit, pendant 3-4 ans, hein. Ah, ça vaut rien. Ah. Alors ça, c'est le Seigneur qui vous le donne, vous comprenez? Alors le remède à la colère, ce n'est donc pas de se mettre en colère, encore plus. C'est de déposer cette colère au pied de la croix et de chercher le pourquoi. Avec l'esprit de science de Dieu. Où, Seigneur, est ma connivence? Où est mon refus? Et Dieu, il veut me le montrer, sinon je n'aurai pas cette émotion de colère dans une oraison, dans la prière. Bon, il y a un événement, et puis moi, je dis non. Alors lui, il me dit, Seigneur, voilà pourquoi tu ne veux pas. Voilà pourquoi tu ne veux pas me donner ça. Je ne veux pas te donner... sur ce plan de l'amour, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu me donner ça. C'est ça que tu n'as pas voulu me donner. Quand tu étais gosse, quand tu étais un abo. À cette époque-là, tu n'as pas pensé à me le donner. Alors il va me montrer quelque chose à lâcher. Un avoir à lâcher. Une convoitise à lâcher. Comme montré. L'agressivité, donc, il y a deux choses importantes. Soit un avoir convoitise, auquel je me suis raccroché pour me détacher de Dieu. Soit une perte qui m'a coûté beaucoup soit un pouvoir de domination sur les autres. Donc c'est lié aux deux passions mères, ce que vous avez à la racine amère, ces deux passions mères, ou bien vous êtes dans une attitude d'agressivité parce que il y a une convoitise profonde, et donc vous êtes toujours dans un amour qui cherche à être captatif, convoitise profonde, ou bien alors c'est un événement qui se reproduit et qui correspond à la racine amère, la deuxième passion mère qui est l'orgueil et qui consiste à dire il faut que je domine comme si j'étais la source, alors que c'est Dieu, mon amour et mon père qui est la source. Donc je ne peux lâcher là que par amour. Vous comprenez que si je me t'appelle, t'avais 10 ans, on disait t'étais nabo, hein, quand t'étais en 7e, 6e, 5e, surtout si t'es un garçon, t'as ton petit orgueil et tout ça, on dit ça, vous comprenez ça. Alors à ce moment-là, il faut que tu résolves ce problème-là. Si tu résolves ce problème-là, tac, c'est marrant parce que tu résous tout le problème de l'algue jusqu'à la racine profonde. Hein, c'est ça l'intérêt, quelque part. Parce que si j'en résous deux, vous savez, deux, la ligne droite, c'est le passage d'un point à un autre. Donc si tu as le point d'aujourd'hui, le point d'une racine correspondant à une épreuve, ça y est, c'est toute la ligne qui est lavée. Ça va? C'est une manière de parler, finalement. Mais je ne peux lâcher que par amour, par désir de lui donner de la joie et de consoler son cœur. Et enfin, dernière étape, je vais saisir la grâce. Ça ici, c'est montrer pourquoi, quelle est cette connivence. Maintenant, sixièmement, où est la grâce qui est cachée, liée à la colère? La grâce qui est liée à la colère et à l'agressivité, c'est... Je vais vous le dire rapidement parce qu'il faut que j'arrête maintenant. Un plus d'être, c'est pareil. Remarquez, c'est toujours à peu près la même chose. La grâce, c'est toujours... Personne ne peut vous l'expliquer, la grâce, parce que vous l'expérimentez. C'est une espèce de manière nouvelle d'exister, quoi. En vous. Par rapport à un changement, une insulte, une injure, un truc où vous auriez eu l'impression avant qu'on ne vous respectait pas, etc. Alors, ordinairement, c'est quand même une croissance de vulnérabilité. Vous allez être beaucoup plus sensible, beaucoup plus vulnérable à l'amour. Ça va vous rendre plus sensible spirituellement et en même temps plus fort intérieurement. Vous serez beaucoup plus sensible à l'amour de Dieu et en même temps plus fragile par rapport à l'esprit de ce monde. C'est une grâce, ça. Alors, vous allez devenir très fragile quelque part, par rapport à l'esprit de ce monde, mais en même temps, très sensible à l'amour de Dieu. Ça, c'est la grâce aussi. Vous aurez aussi une deuxième grâce, troisième type de grâce, c'est une grâce de pardon. Il y a pas une vous ne pouvez pas pardonner si vous ne vous offrez pas jusqu'à la racine de vous-même, dans cette source d'amour qui est en vous. Et cette grâce numéro 3, c'est je vais entrer dans un don de moi-même un peu plus grand. Au fond, c'est une grâce de plus grande dépendance à la paternité vivante d'amour de Dieu en moi, corporellement, vitalement, profondément. Et je vais la ressentir. L'agressivité étant en effet le symptôme du désir de se défendre tout seul. Pour entrer, au contraire, dans cette grâce d'une dépendance d'amour, où je suis dans le nid du Père, dépendance à un autre, mon Dieu, mon Père, qui lui va me défendre. Il est mon repos, ma citadelle, mon rempart. Et vous saurez que vous êtes dans la bonne direction au signe suivant, si c'est une émotion d'agressivité. C'est que juste sous la connivence, sous l'agressivité, il y a, si vous rentrez dedans, il y a une petite angoisse qui apparaît. Une petite angoisse. C'est le sentiment qui succède à l'agressivité, c'est une petite angoisse ponctuelle. Alors vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Hein? Pourquoi? Parce que c'est le signe que vous avez décidé de lâcher en vous cette connivence. Du coup, vous avez lâché une sécurité. N'est-ce pas? Et du coup, quand on lâche une sécurité à laquelle on s'est habitué, hop, on se trouve dans une petite angoisse.
Et tout de suite, il faut se rattraper à la présence de Jésus et du Père qui est ma sécurité vivante et sensible. Ayant lâché, donc, vous avez le choix de perdre. Et à ce moment-là, vous êtes hors défense. Et apparaît ce fait que vous êtes tout fragile, tout nu. Et donc vient l'angoisse. Alors ça veut dire que la connivence est franchie. Étape numéro 4. Et le Seigneur va pouvoir descendre avec vous dans la source de l'amour qui est en vous. Nous allons voir un autre sentiment cet après-midi. L'angoisse et la peur. Et si on a le temps, la tristesse. Et si on a le temps, le découragement. Et si on attend encore... Enfin, on a vu grosso modo la jalousie et l'agressivité. On va essayer de voir le découragement et l'angoisse, ce que vous voulez, ce que vous préférez.